Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc, Regarde ailleurs, c'est vraiment dans cette idée de donner la parole à des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, des photographes, tout en lien avec cette dimension de l'ailleurs et du voyage. Là, je me retrouve dans un festival, le Salon du Livre de Colmar, et donc je me balade un petit peu dans les allées. Et j'ai été attiré par les couvertures d'un bouquin, chaman. Donc le mot chaman, on va en parler aussi, hein, c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. Et je m'arrête devant cet homme avec son chapeau et son cigare. Et je lui propose de venir faire un interview. Il me dit ok. Donc je ne sais absolument pas à qui je m'adresse. Donc ça va être une rencontre à travers cette émission radio. Donc avec nous dans cette émission, Tigran. Donc l'idée c'est vraiment de revenir un petit peu à ton parcours, à ton voyage. Tu parles de saga initiatique. On peut considérer des fois la vie comme un voyage initiatique. Donc tu me disais que tu as grandi ou que tu es né à Paris. À quel moment dans ton parcours tu te dis peut-être que c'est le moment d'aller voir ce qui se passe au-delà des frontières, au-delà de ma ville ou de mon pays?
Bonjour Alexandre, merci pour cette invitation. Tigran, c'est pas un nom de plume, c'est le prénom arménien que m'a donné ma mère qui était d'origine arménienne. Donc je suis à moitié du Caucase en fait. Vers 5 ans, j'ai eu des expériences spontanées qu'on pourrait appeler expériences initiatiques, c'est-à-dire des expériences qui vous tombent dessus, qu'on ne choisit pas au plus jeune âge et qui vous font voyager, mais voyager sur place, voyager à l'intérieur, voyager vers l'au-delà, à travers un changement de perspective sur ce qu'on appelle la réalité, à un âge où on n'a pas besoin de cataloguer et où quand ça vous tombe dessus, et ben, on contemple et on devient différent parce qu'il y a avant et après ces moments qui en soi sont initiatiques. Et puis on les oublie parce que ça fait partie de l'enfance. On vit sa vie d'adolescence, etc. Normal, on fait des petits voyages un peu comme tout le monde. Et à 18 ans, j'étais, après plusieurs années, comme chanteur dans la musique classique, chef de chœur, etc., en musicologie à la Sorbonne. Et je voyage en Europe pour des masterclass de chant, etc. Jusqu'ici, rien de très exotique. Et en licence, je fais une spécialisation en ethnomusicologie qui m'amène à aller enregistrer des musiques de trance dans le monde. Je parle de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, puis la Russie, l'Australie, l'Indonésie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, etc. Et là, je me rends compte que ces musiques sont bien plus que de la musique.
Donc là, tu es en musicologie, donc tu pars avec un micro à la rencontre des différentes traditions, de différents peuples pour essayer de documenter la place de la musique, c'est ça ? Quelle était l'intention que tu avais dans ces différents voyages ?
Alors à cette époque, en musicologie, où j'avais comme professeur d'ethnomusicologie et d'acoustique, Monsieur Gilles Léoto, qui a été un des professeurs qui m'a le plus marqué à la Sorbonne, pour un cours, en fait, qui a été déclencheur et qui était censé traiter de la guimbarde et du chant diphonique mongol, qu'on appelle aussi parfois la voix de cristal, ce chant où on fait ressortir un harmonique au-dessus d'un fondamental qui donne l'illusion d'une mélodie qui n'est pas là, mais qui néanmoins est audible, et qui un jour a fait un cours dans l'amphithéâtre sur les pouvoirs de l'esprit. Et j'ai été complètement scotché, c'est-à-dire que je me suis aperçu que mon vrai sujet de prédilection, c'était pas la musique en soi, mais c'était plutôt les pouvoirs de l'esprit. Et j'enchaîne sur un certain nombre d'enregistrements. Un des premiers, c'était le Maroc, puis le Sri Lanka. Et ces deux voyages m'ont permis de découvrir qu'au moment d'enregistrer ces musiques, il y avait plus que de la musique, ça n'avait plus rien à voir avec un concert. Que ce soit de la musique dite profane ou de la musique sacrée pour certaines cérémonies, ne changeait pas grand-chose. En fait, derrière l'étiquette de profane et sacré, il y avait une musique de trance, il y avait une musique qui était là pour certaines personnes de connaissance qui voulaient faire bouger les lignes au sein d'une communauté de façon à apporter un bénéfice physique et parfois psychique à des personnes qui en avaient le plus besoin.
Tu as commencé par le Maroc, j'imagine que tu as exploré les gnawa, la musique gnawa.
La musique gnawa est extrêmement puissante, c'est-à-dire que même quand on n'est pas initié ni préparé au rituel gnawa, il se passe quelque chose qui est apte à réactiver certaines vibrations et certains rythmes qui induisent une modification, pour ne pas dire une amplification de conscience, malgré soi. Qu'on le veuille ou non, ça se met à résonner avec cette rythmique qui est très très puissante et qui vient taper, je pense, dans des archétypes qui sont au-delà des religions, au-delà des croyances. Même si on n'est pas familier de cette culture, tout d'un coup, on se met à vibrer à l'unisson avec quelque chose qui vous dépasse.
Alors je veux bien que tu développes, parce que la musique, on a tous écouté la radio, on sait tous ce que c'est écouter de la musique, aller voir un concert, mais quand on parle de musique et un accès à la transe, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que la transe et comment est-ce que la musique peut déclencher cet état de transe?
La musique peut la déclencher, et je ne suis pas expert moi-même, ni ingénieur acoustique, mais on observe évidemment quand un bus passe dans la rue que ça fait vibrer la fenêtre, et que quand un scooter passe, ça fait vibrer le carreau de cette même fenêtre. Donc par résonance, fréquence, etc., tout est vibration, qu'on peut mettre en vibration un objet qui est plus loin que soi, donc évidemment notre corps, mais au-delà d'une vision un petit peu matérialiste, de cinétique et autres, on a également des choses beaucoup plus subtiles dans certaines formes de chant, notamment dans la vocalité, dans les techniques vocales, dans le rythme, dans le souffle, parfois même sans son, même sans mettre en vibration les bandes ventriculaires, comme on dit, c'est-à-dire les cordes vocales, et que simplement par une technique de chant comme le katajait chez les Inuits au Groenland par exemple, on a un aller-retour qui, sans voix à proprement parler, confine à une hyperoxygénation qui ressemble beaucoup à la respiration holotropique aujourd'hui, c'est-à-dire à des techniques d'amplification de conscience complètement gratuites, naturelles et vieilles comme le temps. J'étais à l'époque étudiant en musicologie et en ethnomusicologie, c'est-à-dire que ce n'est pas une voie que j'ai poursuivie puisque je suis devenu éditeur. J'ai commencé à écrire des romans initiatiques, notamment pour la jeunesse. J'ai été éditeur pendant une trentaine d'années. Et depuis 3 ans, je me suis remis à la plume comme auteur, d'où la saga de contes initiatiques Chaman dont tu parlais, qui se décompose en 2 trilogies. Une première trilogie, l'aventure mongole, et une deuxième, l'aventure amérindienne. L'aventure mongole, elle renoue avec les cours d'ethnomusicologie dont je parlais, autour notamment du chant diphonique, de la guimbarde, bien sûr, et de ces techniques très très particulières qui, au-delà de la musique ethnique qu'on étudie quand on fait ses études, tout d'un coup vous révèle que ces chants, ces musiques, ces rythmes peuvent être une porte d'entrée vers d'autres mondes. Pour répondre à ta question, au tambour qui va agir comme une clé d'accès à d'autres niveaux de réalité, vers des esprits dans ces cosmogonies, en tout cas c'est comme ça qu'on le décrit, bienfaisants, serviables, qui sont là pour nous assister et qui vont nous prêter, ou dont on va canaliser pour un temps et un temps seulement, telle aptitude de vision, de diagnostic, de clairaudience, de clairvoyance, de façon à, avec apposition des mains ou pas, avec contact ou pas, avec chant ou pas, favoriser un travail de soulagement qui va aider vers le mieux-être physique ou mental.
Et qui sont tous ces guides, ces esprits, toutes ces forces dans ces réalités qu'on connecte à travers un instrument?
J'allais te poser la même question.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc là, tu parles de cette expérience de quand tu as 6 ans.
Oui, je parle d'une expérience que je raconte au début du tome 1 de l'aventure mongole de la série Chaman, qui est un moment où dans un préau, un cours de gymnastique collective, donc on n'est pas du tout devant un coucher de soleil, ou à 15 ans après sa première séance de méditation, ou à 20 ans après un jeûne. Non, on a 6 ans, cours de gym collective, on est appelé à monter à la corde. Je me rapproche de cette corde, tu sais, comme les grosses cordes de la marine tressées, torsadées, donc de chanvre très épais, et on doit monter, grimper, toucher le plafond et redescendre. On est chronométré par un prof de gym, on a tous les élèves, les camarades qui sont en bas. Le petit garçon que j'étais à l'époque grimpe à la corde, et tout d'un coup, c'est un petit peu comme si le monde s'ouvrait en deux, c'est-à-dire que je suis pris d'un sentiment d'extase qui me traverse des pieds à la tête, et le temps disparaît. C'est-à-dire qu'à 6 ans, j'entends cette sorte de diapason fondamental qui, d'une part, est magnitude extrêmement impressionnante, comme une sorte de connaissance au-delà du temps, mais qui à la fois est d'une telle douceur, d'une telle bienveillance, qu'on ne peut pas douter du bien fondé de sa présence. Alors évidemment, tout d'un coup, j'entends la voix du professeur qui hurle « mais redescends à la fin ». Donc je comprends que s'il dit « à la fin », c'est que ça fait un certain temps que ça dure. Moi, j'ai totalement perdu la notion du temps parce que dans ces espaces-là, il n'y a plus de temps, littéralement. Ces quelques secondes vous donnent un avant-goût d'éternité. On sort de la tridimensionnalité et de la perception linéaire passé, présent, futur. Et on revient sur Terre, peut-être changé pour toujours. Moi, quand j'ai retouché Terre, au sens propre comme au sens figuré, je me suis aperçu que je marchais plus lentement que d'habitude. Et je me sentais ni fatigué, ni handicapé. Je me sentais juste dans une autre temporalité. J'ai regagné mon tatami et je me suis aperçu que je ne pouvais pas rester assis sur le tatami. C'est le seul souvenir que j'ai de cet âge de 6 ans, c'est que je me suis décalé sur le côté. Je me suis assis par terre. J'avais besoin d'éviter un intermédiaire entre moi et le sol. Et puis finalement, j'ai retiré mes chaussettes comme si j'avais besoin d'être pieds nus sur terre.
Et donc Tigran, tu finis tes études, hein, tu nous parlais avant de musicologie, et j'ai cru comprendre que le voyage avait aussi une grande part dans ta vie, dans ton existence, hein, le voyage initiatique ou le voyage aussi physique à travers différentes cultures. Donc on va s'intéresser un peu à cette partie-là de ton existence. Donc j'ai compris Maroc, tu parlais de Sri Lanka, la Mongolie apparemment a occupé tes pensées et ton esprit. Parle-moi des voyages et qu'est-ce qui t'amenait de culture en culture, qu'est-ce qui t'amenait de...
Alors ça a été des rencontres en fait, plus qu'un choix. Moi j'ai absolument rien programmé et je dirais en toute humilité que non seulement des choses me sont tombées dessus, mais que j'ai plutôt suivi un radar qui vibrait plus ou moins fort, un sonar qui résonnait plus ou moins juste en fonction des personnes dont je croisais le chemin. Donc il y a eu des chamans et aussi des guérisseurs, des curanderos, des tabaqueros, des femmes médecine, des femmes de connaissance, mais parfois aussi des gens qui s'autoproclameraient jamais chamans, des femmes qui sont parfois sages-femmes, mais qui font bien plus que de pratiquer un accouchement dit physiologique et qui savent faire bouger les lignes quand il y a une urgence. Et bref, ce sont ces rencontres qui m'ont amené vers telle et telle et telle destination. C'est l'humain qui m'a fait pointer vers tel ou tel pays, vers tel ou tel type de cérémonie que j'observais dans un premier temps, un petit peu de l'extérieur. Et puis très très vite, j'ai senti que ça me rappelait cette fameuse expérience à l'âge de 6 ans et que même si la porte n'était pas aussi grande ouverte, il y avait quelque chose qui remettait en vibration de ce registre, de cette nature, de ce plan-là, et qu'en fait, je connaissais ce langage. C'est-à-dire que quand je voyais les chamans, les guérisseuses, les curanderos, les femmes médecines, etc., agir, et qu'au-delà de leurs gestes physiques, de leurs procédés manuels, etc., il y avait d'autres forces qui infusaient, d'autres lignes qui passaient, j'allais dire, entre les lignes du rituel, j'avais un sentiment de familiarité extrême. Donc c'est comme si cette expérience de l'enfance m'avait préparé à ces contacts et que ces contacts m'avaient très naturellement appelé vers les cultures d'origine que représentaient ces différents, entre guillemets, guérisseurs ou devins ou sages-femmes ou hommes de connaissance, etc. Dans un premier temps, j'ai été très impressionné, pour ne pas dire enivré, par l'extraordinaire biodiversité de rituels, de musique, de rythmes, de coutumes, d'outils, d'objets, de symboles, de formes, de procédés, de manières de faire, de jour, de nuit, avec ou sans tambour, avec ou sans cascade, avec ou sans marche, avec ou sans diète, avec ou sans quête. Et très étrangement, il leur a fallu 3 cycles de 7 ans, puis de 12, puis de 12, 31 ans plus tard, pour que de 20 ans à 51, je m'aperçoive un jour que, au-delà de cette diversité qui fait toute la richesse de la planète et de ses peuples, au-delà de cette diversité, quand il y a vraiment urgence à faire bouger les lignes, on puise tous à la même source.
Mais donc de 20 ans à 51 ans, tu as été dans l'expérimentation finalement de ces différentes traditions. Tu parles de chaman, de curandero, et c'est à 51 ans que tu comprends que finalement le message, enfin tout est là finalement.
Oui, c'est-à-dire que ça fait partie de cette richesse, de même qu'il y a des milliers d'espèces d'oiseaux, d'insectes, de plantes, que même parmi une espèce d'arbre, il y a toutes sortes de variétés, de cousins, etc., etc., etc. finalement la vie est une et on puise à la même origine. Et au-delà de ces voyages qui font toute la beauté, la diversité, les apprentissages, les expériences qui se déploient, auxquelles on participe et qui viennent enrichir de façon toujours exponentielle le champ des possibles, il y a un moment où l'heure est plutôt à la réunification, l'heure est à se rappeler qu'au-delà de ces traditions qui parfois semblent conserver très secrètement certaines façons de faire, certaines connaissances, etc., quand il y a urgence et quand la Terre-Mère appelle, quand Gaïa appelle, il s'agit d'unir nos forces et il s'agit de revenir à ce dont on vient tous.
Et de transmettre aussi les savoirs acquis.
C'est ça, retransmettre, parce qu'à un moment, moi, après avoir été éditeur pendant 30 ans et publié les grandes références du chamanisme avec ou sans tambour, avec ou sans plante et des témoignages, etc., de ceux qui sont aujourd'hui parmi les pierres de taille des différents enseignements universitaires, ethnographiques, anthropologiques, etc., de Michael Arner à Kevin Turner, de Laurent Huglier à Brigitte Pietschak et d'autres. Il y a un moment où finalement ces doyens, ces doyennes, ces grands-mères adoptives qui sont devenues des mères spirituelles vous disent « Ok, là c'est vraiment maintenant que ça se passe, c'est pas une idée, c'est pas un discours d'écologie spirituelle, c'est pas ce que vous appelez le New Age, c'est que la Terre-Mère appelle et qu'aujourd'hui il faut unir ses forces, il faut que certaines, alors si on y croit, prophéties s'accomplissent. De l'Orient qui rencontre l'Occident, ça peut avoir différents noms, du féminin qui remonte dans le masculin, de l'ombre et de la lumière qui dansent ensemble et dont on perd une notion un peu manichéiste de polarité absolue, binaire, insurmontable, etc. Pour aller au-delà de tout ça, pour transcender les différences, dans cet esprit, non seulement que l'union l'a fait la force, mais que c'est maintenant le moment d'agir et maintenant d'aller au-delà de nos différences.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc effectivement, c'est sur le Salon du Livre que je te rencontre. Le bouquin s'appelle, enfin il y en a plusieurs, il y en a six, une série de six bouquins. Tu as choisi « Chaman » comme titre. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur ce terme, le mot « chaman ».
Alors, chaman, à l'origine, c'est un mot qui vient des Tungus et plus précisément du nord de la Mongolie, la Sibérie, la République de Touva, cette zone géographique où, suivant les traductions, l'interprétation serait parfois celui qui sait, plus au sens de la connaissance que du savoir, de l'expérience d'ailleurs, de première main, ou celui qui s'agite, pas au sens de celui qui est agité, mais celui qui parfois danse, part en transe, voire même tombe et lâche cette réalité-ci pour partir en voyage en dehors de son corps ou au cœur de sa psyché, pour ne pas dire parfois de son cœur, vers d'autres plans des réalités. Au-delà de ça, c'est un mot qui est devenu très à la mode et fourre-tout, qui s'est exporté, qu'on utilise y compris en Amérique du Sud, en Amérique centrale, du Nord, dans des endroits où on n'employait absolument pas ce terme bien sûr avant, où on parlait de femmes médecines, d'hommes de connaissance, de curanderos, de tabaqueros, etc. etc. Y a évidemment un opportunisme parfois mercantile, avec une mode abusive de tourisme chamanique, de commercialisation de ces concepts, et de gens qui voudraient nous faire croire que tout le monde peut devenir chaman en deux jours, en suivant deux stages de quelques heures, des tutoriels sur YouTube, etc. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans la réalité, tout est toujours double. S'il y a un côté pile, il y a un côté face. Il faut faire très attention à ces histoires, parce que de même que chez nous, on dit qu'on badine pas avec l'amour, on badine pas avec le sacré et on badine pas avec ce type de pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est que pour faire référence à ce que tu nommes, c'est-à-dire cet engouement, cette famine, pour reprendre ton terme, il y a des très très bons côtés à cet appétit-là. Et un des meilleurs côtés, c'est la reconnexion avec la nature. On a été trop déconnecté de la nature. On ne peut pas en permanence croire que le mental, le rationnel, le cartésianisme vont tout expliquer. et que le progrès, le matérialisme, etc., va subvenir à tous nos besoins. Donc au bout d'un moment, la déconnexion toute simple avec la nature et avec ces médecines parfois tellement naturelles et gratuites qui vont de soi, nous manque, nous fait défaut. Et ce n'est pas seulement que ça nous fait défaut pour notre santé physique et notre hygiène physique, physiologique au quotidien, c'est que ça a également un impact sur le mental, sur des formes de dépression larvée, de sentiment de plus savoir trop où est sa place, de plus être connecté, irrigué, allumé comme on le devrait, comme une ampoule qui serait à moitié dévissée, qui parfois s'allumerait, parfois s'éteindrait. Il y a des choses toutes simples pour ça, la reconnexion à la nature, ou parfois aux animaux, au règne végétal, aux éléments, participe de ce bien-être qui est à portée de main. Et cette mode, entre guillemets, du chamanisme actuel, c'est un des aspects les plus bénéfiques, je pense, qu'il peut nous rapporter, c'est nous rappeler que parfois, il suffit d'aller en forêt, retirer ses chaussures, ses chaussettes, marcher pieds nus sur terre, s'adosser à un arbre, mettre ses mains dans de l'eau vive, respirer, laisser tomber le mental quelques instants, arrêter de tout chercher par le cerveau gauche pour finalement se sentir bien et laisser la planète nous irriguer de certaines forces plus invisibles que visibles qui manquent tellement quand on est déconnecté de la nature. Évidemment, il y a dans cette mode-là des mauvais côtés, entre guillemets, et là, c'est peut-être la minute un peu rabat-joie et vieille école de celui qui pense qu'il faut aller lentement dans ces histoires-là. Ce sont des territoires très très importants. La navigation côtière de plaisance, c'est une chose, un petit peu tout le monde peut en faire. Au pire, si le temps change, quand on est dans le chamanisme, avec ou sans tambour, avec ou sans tel état de conscience connectée, et que le grain se lève mais qu'on est en navigation de plaisance, au pire on jette l'ancre, on rentre à la nage, on voit toujours la côte, on voit le port, et voilà. La navigation en haute mer, c'est autre chose. C'est pas pour tout le monde, c'est comme les marches en haute montagne. Quand le temps change dans ce genre d'espace, il faut pas être seul. Il faut être accompagné de gens dont c'est le métier de père en fils depuis des générations, parce que ça réclame une véritable maestria d'avoir cartographié cette science de la conscience qui vous permet de revenir de situations et de destinations extrêmes. Donc dans cette mode actuelle, attention, il y a des bons côtés bien sûr, mais je remarque qu'on insiste beaucoup sur donner des clés aux gens, leur faire croire que tout le monde peut être chaman, devenir chaman en deux jours, appeler, inviter, ouvrir les portes. Dans toutes ces cultures, je remarque un dénominateur commun. Pour elles, il y a une sagesse. Et cette sagesse, c'est de dire, plus important que d'ouvrir les portes, il faut savoir et être capable de les refermer. Sinon, vous avez un problème. Vous êtes parasité, vous entendez des stations de radio que vous ne voulez pas entendre, vous dormez moins bien, etc. Bref, pas la peine d'ouvrir ces tiroirs. Juste se rappeler que c'est bien beau d'ouvrir les portes, il faut avoir une intention très très précise, il faut être très exigeant, mais il faut surtout apprendre à les refermer. Quand vous ramenez votre véhicule après une virée, vous le ramenez au garage, à sa place, vous fermez les fenêtres, vous fermez les lumières, vous coupez le contact, vous fermez la porte à clé et vous rentrez chez vous. Et le véhicule, vous le laissez à sa place, chacun chez soi.
Donc on a vu au début de cette émission qu'une des manières d'ouvrir les portes peut passer par la musique, par le tambour. On n'a pas parlé des plantes, parce que dans pas mal de traditions, les plantes sont très utilisées. Le peyote, l'ayahuasca, la mescaline, les psilocybes chez nous, la manite. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'usage des plantes ?
Alors les plantes, dont on est obligé de rappeler que la plupart de toutes ces plantes sont strictement interdites en France. Dans leur culture d'origine, c'est ça qui est intéressant, aux antipodes de nos classifications occidentales ou françaises, dans ces cultures d'origine, elles sont souvent classées soit carrément légalement au patrimoine national des cultures qui en sont les dépositaires et les gardiens depuis la nuit des temps, donc ça de façon juridique et on ne peut plus officielle et légale. Elles sont aussi l'objet de protocoles médicinaux encadrés dans des facultés de médecine, des cliniques, y compris d'ailleurs en Angleterre, dans des universités aussi prestigieuses que l'université d'Oxford. Et donc, elles bénéficient d'un statut sous d'autres latitudes qui est radicalement opposé à celui qui est le nôtre dans l'Hexagone. Donc, il importe que chacun respecte la législation en vigueur là où il se trouve. Bien sûr, nous on a d'autres types de culture et d'éducation par rapport à d'autres plantes légales chez nous, que ce soit le tabac ou d'autres substances comme le vin, qui pourtant en termes de conséquences sur la santé publique sont très très loin d'être anodins. Cette parenthèse étant refermée, je remarque que dans ces cultures d'origine, très souvent, si vous parlez aux anciens qui eux-mêmes ont à cœur de maintenir une tradition, une sagesse, une lignée qui remonte très 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 loin en arrière, on ne parle pas comme chez nous avec des substances récréatives sur lesquelles on a très très peu de recul, qui sortent de contextes opaques où les humains jouent à être des apprentis sorciers. Non, dans ces cultures d'origine, on respecte une tradition séculaire, pour ne pas dire millénaire. On a donc un recul gigantesque sur des principes actifs et plus que des principes actifs. Ça n'est pas une vision purement de biologie moléculaire, c'est une vision d'un totum de la plante, d'une plante qui a un esprit comme un animal a un esprit. En France, on est mal placé pour dire ça, puisqu'il y a quelques années encore, comme tu sais, dans la loi et le code des impôts, par exemple, un animal domestique, un chat, était classé officiellement comme un meuble. On est très très loin de la perception que l'Égypte ancienne avait des chats. Parenthèse refermée également sur notre perception des animaux en parallèle de notre perception des plantes. Ces plantes, dans ces cultures d'origine, ne sont pas considérées que comme des plantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là du persil ou d'une salade, il s'agit pour les plantes que tu as nommées, d'une plante maîtresse. Ça veut dire que c'est une plante qui a un esprit, que cet esprit peut nous guider, qu'il est détenteur d'une connaissance, d'une clairvoyance, qu'il peut être invoqué de façon à bénéficier de son diagnostic, de façon à accélérer la bonne prescription physique ou mentale qui va nous permettre d'évoluer vers un mieux-être. Donc, dans ces cultures, ces plantes sont non seulement respectées, mais elles peuvent être considérées comme des guides au sens spirituel et sacré du terme.
C'est incroyable, tu parles d'esprit de la plante, donc il y aurait moyen de se connecter avec l'esprit d'une plante qui pourrait nous apporter des réponses pour trouver un équilibre intérieur.
Alors moi, je ne suis pas expert en la matière, je ne fais que répéter ce que j'ai pu entendre sur différents continents, où je remarque que les plantes sont respectées, mais après tout, chez nous, on a d'autres comportements où des plantes qui sont considérées comme ayant un esprit dans ces cultures, chez nous, sont devenues totalement profanes. Néanmoins, on les utilise tous les jours. On a ce comportement très addictif, par exemple, avec le café ou avec le cacao. Et dans certaines de ces cultures d'origine, ce sont des plantes complètement sacrées qui sont considérées à l'égal de la coca ou telle autre plante qui peut avoir d'une part un bienfait physique, biochimique quand par exemple on vit à 4000 mètres d'altitude et qu'on doit marcher de grandes distances en très peu de temps dans la cordillère des Andes et que contre les symptômes émétiques, les nausées, etc., on va utiliser une plante très très riche en tanins et en anti-émétiques qui va nous ôter les douleurs crâniennes, etc. C'est plus considéré comme une médecine, en fait. Et il est intéressant de voir que certaines de ces plantes, dans leur contexte d'origine, ont non seulement un esprit, mais qu'elles sont considérées comme des médicaments. L'Occident a souvent, comme tu sais, la capacité de prendre, industrialiser et raffiner, au sens propre comme au sens figuré, hein, comme on le fait avec du sucre raffiné, par exemple, une substance de façon à en faire une substance qui est très très dénuée de toutes sortes de qualités biochimiques qu'elle avait à l'origine, par exemple le sucre blanc, qui comme par hasard devient une drogue dure. Idem avec le tabac, quel rapport y a-t-il entre la cigarette industrielle, le tabac blond avec ce processus de dessiccation artificielle accélérée et les centaines, voire les milliers d'additifs chimiques qui augmentent les formes d'addiction, de rush, etc. Et le tabac d'origine, Nicotiana rustica, le tabac brun des tabaqueros des Andes et de peuples comme les Lacandons qui fument des cigares grands comme un avant-bras et qui vivent parfois centenaires.
Tigran, merci à toi. Dernière question, pourquoi tu fermes les yeux quand tu me réponds ?
Pour me concentrer un petit peu sur ton écoute et sur ce qui me semble le plus utile et le plus bénéfique à transmettre au maximum de tes auditrices et de tes auditeurs que je remercie du fond du cœur.
Tigran, Mama Édition.
Exactement, pour cette saga chamane de l'aventure mongole et de l'aventure amérindienne.
Une saga initiatique, merci à toi.
Merci Alexandre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.